donc maintenant, comment l'histoire va peut rebondir, je crois personnellement que après comme après le Moyen Âge, je crois que nous allons inéluctablement vers une renaissance. C'est-à-dire que, et ce que vous appelez une troisième voie, mais qui pour moi n'est pas une troisième, mais une quatrième. Parce qu'en fait, voilà, comme je montre, il n'y en a pas trois, il y en a quatre. Voilà. Dans le type de dynamique d'évolution des sociétés. Donc, nous allons vers une renaissance. C'est-à-dire une situation où, en effet, on va... Une renaissance, vous savez, c'est pas abolir le passé, etc. Hein, comme la première renaissance, c'est retrouver, comme le dit très bien ce grand philosophe communiste, là, Zizek, dans un de ses derniers livres, pour comprendre la nouveauté, aller vers la nouveauté, c'est saisir ce qu'il y avait d'éternel dans l'ancien. C'est regarder le nouveau qui vient et le monde qui est à partir du prisme de ce qui était déjà éternel dans l'ancien. C'est ce qu'ont fait les modernes, c'est ce qu'ont fait la première Renaissance. Ils ont regardé leur société, l'avenir, à travers le prisme de ce qu'il y avait d'éternel chez les Grecs, chez les anciens, etc. Dans les éléments de la civilisation qui s'était effondrée. Ils n'ont pas restauré, sinon ce serait une restauration, ils n'ont pas restauré cette civilisation. Mais ils se sont nourris à nouveau de la connaissance de ce qu'avait été cette civilisation pour regarder à travers le prisme de ce qu'il y avait déjà d'éternel là-dedans, le monde qu'ils allaient construire. Eh bien, nous devons regarder à travers le prisme de ce qu'il y avait d'éternel dans la modernité, le monde qui vient. Et ce qu'il y a d'éternel dans la modernité, je pense, et ce que nous devons essayer de préserver comme éternel dans la modernité, c'était justement cette grande aspiration à l'émancipation pleine de l'humanité, mais l'émancipation égale pour chaque être humain. Hein, l'idéal des Lumières, c'était pas le libertarisme. C'était la pleine émancipation des humains, mais l'égale émancipation de tous les êtres humains. Donc qui associait un idéal de liberté à un idéal d'harmonie, d'association et d'égalité entre les individus. Et comment ? Par les moyens que nous donne la raison, c'est-à-dire par les moyens que nous donne l'éducation, la capacité des hommes à penser ensemble le monde, à le connaître, pour construire une bonne société. Je crois que c'est ça qui était éternel. Et donc, à la lumière de ce prisme, de ce qui avait été d'éternel, qui est le projet d'émancipation de la modernité, nous irons vers des sociétés qui le repenseront, mais sur des bases anthropologiques solides. À savoir qu'elles auront compris que ce n'est pas en allant du côté de tout l'individu ou en réprimant, que c'est ce que vous appelez une troisième voie qui est ma quatrième, qui est la conciliation d'une forme multiple de liens. Les républicains, comme je suis et comme l'est notre camarade Jean-Luc Mélenchon, seront des républicains qui auront gardé des jacobins et de la révolution française qui avaient d'éternel, mais qui auront perdu cette idée folle qu'on peut construire une communauté politique abstraite qui va s'imposer à tous les individus concrets en faisant fi de leur singularité, de leurs appartenances sociales particulières, de leur localité, de leur histoire particulière. Et je sais en disant ça, c'est-à-dire que c'est une source par exemple de débat, même au sein par exemple du parti de gauche. Moi j'ai écrit des choses très très solides là-dessus, sur le rôle des communautés, et moi je le dis fermement et clairement, une république démocratique n'est pas une république qui interdit aux gens de parler la langue qu'ils veulent dans leur région. C'est pas comme ça que ça se construit, c'est pas quelque chose qui interdit des coutumes locales, des croyances particulières. C'est la communauté politique, justement, qui arrive à organiser l'interaction, la coopération et le métissage de toutes ces communautés et qui fait que les gens ont le droit d'avoir et la pleine capacité de s'épanouir dans des particularismes locaux, régionaux, ethniques, culturels, religieux, etc., parce que nous avons besoin, en tant qu'êtres humains, pour exister et affirmer notre singularité même, de l'inscrire dans des liens avec des communautés particulières, mais qu'ils le font dans un cadre social qui ne ferme pas, n'isole pas et ne met pas en opposition ces communautés, mais dans la ronde, justement, des cercles sociaux qui s'imbriquent les uns les autres, qui coopèrent, qui se métissent, qui sont ouverts. Ce sera ça la République, la conception républicaine, je dirais, de l'avenir. Donc, la Renaissance, ce sera ça. Ce sera quelque chose comme ça, qui prendra des formes économiques politique variée. Il n'y a pas un seul système institutionnel, économique et politique qui corresponde à cet idéal. Il y aura toujours des techniques et des outils qui seront construits par les hommes là où ils sont, par le débat, par le rapport de force politique. Ça va évoluer. Simplement, il y aura des clés. Et une des clés fondamentales de cette renaissance, ce sera que dans aucun de ces systèmes économiques, quelle que soit la forme qu'ils prennent, il n'y aura un acteur qui se trouvera en situation d'avoir à lui seul le pouvoir sur la production. Autrement dit, le capitalisme aura été aboli partout. Nécessairement. Alors avec des formes différentes. Dans certains endroits, là où ce sera passé, à mon avis, de la manière la plus radicale et la plus violente, on aura une forme pure et simple d'expropriation, de nationalisation, ben, à l'ancienne. Ce sera l'abolition du capitalisme à l'ancienne. Il y aura des formes qui passeront beaucoup plus par la substitution progressive de tout ce qu'on a aujourd'hui dans l'économie sociale et solidaire par des autres formes d'organisation de la production et qui, à force que les autres soient pénalisés, limités, encadrés et racornis, alors que tandis que celles-ci seront au contraire encouragées, aidées et favorisées et correspondant plus finalement à ce que les gens ont envie de vivre en tant qu'expérience de travailleurs ou d'entrepreneurs, prendront peu à peu le pas comme forme d'organisation alternative dominante. Et puis il y a d'autres cas, moi c'est ce que je propose notamment au PG, où ça se passera par la simple réforme démocratique du droit, des sociétés et des entreprises, où on écrira simplement en quelques lignes, en réformant les statuts des entreprises, bah, que tout simplement l'entreprise dans laquelle il y a des gens qui ont, parce qu'ils ont des capitaux, ils ont le pouvoir de direction et la propriété de la totalité de l'entreprise et de ses résultats n'existe plus. Que les gens qui ont des capitaux, ils sont propriétaires de leurs capitaux. Voilà. Et en tant que propriétaires de leurs capitaux qui investissent dans une entreprise, ben, ils ont un droit en effet, ils ont droit à la parole, ils ont un droit de participer à la gestion et à la direction de ces entreprises, mais ni plus ni moins que les travailleurs qui apportent leur travail, que les collectivités publiques qui apportent le territoire, les infrastructures, etc. Ça pourrait être une des formes, voilà. Et vous n'avez plus d'entreprises capitalistes, vous avez des entreprises où un certain nombre d'acteurs, les travailleurs, des investisseurs, des collectivités publiques, sont obligés de coopérer dans l'intérêt commun. Bref, ça prendra des formes diverses. Mais une clé, évidemment, de cette renaissance est qu'on aura compris la folie que c'est d'avoir laissé se développer jusqu'au bout cette possibilité qu'un seul acteur, en l'occurrence l'argent, celui qui détient l'argent, puisse avoir les pleins pouvoirs. Et donc on reviendra très en arrière, mais vous voyez, c'est pour ça que je ne mets pas trop le grand bond en arrière comme titre, personnellement, parce que de temps en temps, c'est bien de faire un bond en arrière. Le bond en arrière est ce qui peut vous faire faire des progrès. C'est pour ça que je préfère le terme de régression, qui est le contraire du progrès. Voilà. Le progrès, ce n'est pas forcément aller toujours de l'avant. Le progrès, ça peut consister à retourner où j'étais hier, parce que là où j'étais hier, c'était beaucoup mieux que là où je suis aujourd'hui. Bon, ben oui, ça peut être ça le progrès. Et donc, le progrès, de même qu'à la Renaissance, on a revisité des idées anciennes, le grand progrès pour l'humanité, ce sera de revenir avant cette grande régression à ce qui a été la grande sagesse profonde fondamentale de toutes les civilisations humaines jusqu'alors, qui est de dire qu'on doit absolument, si ce n'est abolir, car parfois c'est difficile à abolir totalement, mais qu'on doit cantonner le plus possible et réprimer autant qu'on peut la rivalité acquisitive, la rivalité d'accumulation entre les êtres humains. C'est-à-dire la course à l'argent et à l'accumulation. La rivalité symbolique, pour montrer qu'on est bien, qu'on est beau, qu'on est fort, etc. La compétition symbolique qu'il y a dans le sport, qu'il y a dans l'émulation réciproque, etc. Oui, tant qu'il n'y a que ça, elle participe de la vie humaine. Mais la rivalité acquisitive, où on autorise quelqu'un à accumuler des choses et parce qu'il a gagné, à garder ce qu'il a gagné pour avoir encore plus de pouvoir sur les autres, c'est ce que toutes les communautés et les civilisations traditionnels se sont efforcés, pas toujours avec succès, mais ont voulu réprimer, et c'est ce qu'on a cessé de réprimer dans cette dernière phase de la modernité. Laisser libre cours au motif de l'intérêt personnel et du pouvoir de l'argent. Donc, je parce que les gens sur. Non, est-ce que je pense que ça va être possible ou pas? Voilà. Donc, je n'en sais rien. C'est-à-dire que ce qui est sûr, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, c'est pour ça que j'en ai pris le temps, nous sommes à la fin. de ce cycle. Et donc forcément, après, ça ne peut pas continuer comme ça. Mais la fin est terrible. Les fins peuvent être terribles. Et nous avons ça sous les yeux. Car comme c'est une impasse, ce grand mouvement libertaire, ça finit comment la grande régression? Ça finit pas dans le libertarisme. Ça finit dans l'obscurantisme, dans l'aliénation, etc. Parce que ça crée tellement de désordres sociaux et de désordres moraux que vous voyez partout dans le monde la remontée des communautarismes, de l'obscurantisme, etc. Parce que face à ce désordre, il y a un grand rappel à l'ordre. Il y a une nécessité psychique pour des individus, sociale pour les États et les pouvoirs, de rétablir l'ordre dans le désordre et le chaos qu'ils ont construit. Et donc cette grande régression ne se finit pas dans un épisode libéral, nous ne sommes absolument pas dans les sociétés libérales. Dans les sociétés, on n'arrête pas de réprimer les libertés publiques au nom de la sécurité, au nom de la peur du terrorisme, où on n'arrête pas revalider finalement un retour, non pas de la religion, ce qui en soi ne serait pas une chose détestable, mais un retour du religieux, c'est un retour du religieux fanatique, dissocié de toute espèce de culture, de toute espèce de conception de la religion comme lien qui unit une population, etc., mais simplement comme investissement personnel dans la seule et unique vérité exclusive contre toutes les autres. Donc on est en pleine régression ici aussi morale, intellectuelle et psychique du fait des désordres qui sont engendrés. Donc c'est en train de finir très mal, c'est normal. C'est pour ça qu'il faut intervenir. L'intervention, elle passera par là. Heureusement, c'est ce qu'on voit ici ou là, un certain nombre de pays, et notamment dans celui-là, elle se fera dans les pays où il y a encore suffisamment de résistance sociale chez les travailleurs et de résistance politique pour créer un autre rapport de force politique. C'est la seule voie, mes amis. Maintenant, est-ce qu'on aura le temps, est-ce que ça se fera, etc. Personnellement, je pense que, je comprends qu'on se pose la question, mais je pense que c'est une question qui n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que, parce que ça change quoi après? Ça change quoi? Si je vous dis, ben non, on n'aura pas le temps, voilà pourquoi on est venu ici, etc. Et après tout, et même si on n'a pas le temps, c'est la conclusion de mon livre, dans les dernières pages, voilà. Personne ne change l'histoire. Voilà. Donc on s'en fout de savoir si ça va marcher ou pas. Ça, c'est une question d'orgueilleux. Quelqu'un qui se pose la question de savoir mais ça va marcher, ça va pas marcher. C'est quelqu'un qui, quelque part, dans sa tête, a l'illusion qu'il pourrait faire que ça marche ou que ça marche pas. Arrêtons les conneries. Personne ne change l'histoire. Voilà. C'est des millions de gens qui changent leur vie, qui éventuellement entraînent un changement de l'histoire. On ne change que sa vie. Donc la seule question pertinente, c'est pas est-ce qu'on va avoir le temps, est-ce que ça va marcher, est-ce que ceci ou est-ce que cela. La seule question, c'est quel camp nous choisissons. Est-ce qu'on choisit le camp du progrès ou est-ce qu'on choisit le camp de la régression? Est-ce qu'on choisit le camp des victimes ou est-ce qu'on choisit le camp des bourreaux? Est-ce qu'on choisit le camp de ceux qui n'en ont rien à foutre et qui attendent que ça passe? Ou est-ce qu'on choisit le camp de ceux qui disent, ben, moi je fais ce que j'ai à faire, au moins, peut-être que ça ne marchera pas pour le monde, mais ce que vous êtes sûr de réussir, c'est que ça change votre vie. C'est quand même, ça change totalement votre vie et ça, c'est ce qui est à notre mesure. Je veux dire, c'est ça la